Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Les vacances d'été approchent et beaucoup d'entre vous, pour vous, c'est le moment de repartir au pays en famille. Pour que ces vacances soient un moment privilégié pour toute la famille, il est important de préparer son voyage. Mais un voyage réussi, c'est un voyage préparé à l'avance. Trouver un billet d'avion, faire ses démarches de visa et vaccination, prendre un rendez-vous chez un médecin pour connaître les vaccinations obligatoires et recommander selon le pays de destination, acheter les médicaments contre le palu, préparer sa trousse de secours, acheter une moustiquaire. Un grand nombre de maladies liées au voyage peuvent être prévenues par une vaccination. On va en parler justement, puisqu'on est au mois d'avril. C'est tout à fait propice pour commencer toutes ces démarches. Autant de questions donc, que nous allons aborder ce matin avec notre invité, le docteur Assa Niakate Tall. Merci d'être avec nous, docteur. Vous êtes médecin responsable du centre de vaccination international Berthaud à Paris. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Alors justement, cette émission au mois d'avril, puisqu'on a encore du temps, si on veut commencer ses démarches. Et il faut surtout éviter de s'y prendre à la dernière minute, puisque dans ce cas, on pourrait, par exemple, se retrouver avec des centres de vaccination qui sont pleins, avec des difficultés à prendre des rendez-vous. Alors, justement, parlez-nous de ça, docteur. Évitez de s'y prendre à la dernière minute. Bonjour.
Oui, bonjour à tous. Et à toutes. Donc effectivement, là, à partir du mois d'avril, il commence à y avoir de fortes demandes hein, dans les centres de vaccination internationaux.
Ouais.
Et l'idée, effectivement, quand on sait qu'on va voyager, surtout si on part en famille, avec les enfants, etc., il faut vraiment essayer d'anticiper au maximum. Parce qu'il va y avoir des mises à jour de certains vaccins qui peuvent demander que l'enfant soit vu ou que la personne soit vue plusieurs fois.
Ouais.
Et c'est vrai que si on s'y prend à la dernière minute, 15 jours seulement avant le départ, on risque de partir avec une vaccination incomplète ou parfois même on peut être dans l'impossibilité de pouvoir faire la vaccination correctement. Donc c'est vrai que dans la mesure du possible, c'est toujours bien d'anticiper d'à peu près 2 ou 3 mois. Et puis en plus, ça permet aussi d'étaler les frais sur 2 ou 3 mois.
Merci de nous le rappeler. Alors justement, nous nous sommes rendus dans les rues de la capitale. Vous pouvez vous munir de votre casque pour entendre les auditeurs qui ont répondu à nos questions. On les écoute et on se retrouve juste après.
Quand je vais au Cameroun, je me prépare pour les vêtements d'été et ensuite je fais des vaccins avant d'aller au Cameroun contre le paludisme, la fièvre jaune.
Je suis camerounais d'origine et quand je pars dans mon pays, ce que je fais comme démarche habituellement, c'est donc de payer mon billet, de prévoir aussi un rendez-vous à l'ambassade pour le visa et prévoir un rendez-vous pour le vaccin.
Mais bon, déjà pour aller à Abidjan, j'ai pas besoin de demander un visa, j'ai mon passeport ivoirien. Je vais à l'ambassade, je paye le billet, puis je vais directement à Abidjan, il n'y a pas de souci. Tout à fait normal, quand, avant de partir à Abidjan, je vais directement dans un centre d'analyse, je fais des prises de sang et puis me prescrit des médicaments juste pour éviter de tomber malade parce que vous savez, l'eau d'ici et là-bas, c'est différent.
Le Bénin, c'est un pays où il n'y a pas ce genre de problème, au fait. Il n'y a pas de pas prendre ce repas ou pas boire de l'eau, ou, surtout à la capitale, l'eau est potable, tout est normal. Donc au Bénin, peut-être dans les autres pays que je ne connais pas.
Alors, je vous ai vu hausser un petit peu la tête en entendant, par exemple, la dernière intervenante qui nous parlait du Bénin en disant que tout allait bien, que l'eau était potable au Bénin. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment vous avez envie de réagir?
Alors, nous, dans le cadre des recommandations, quelle que soit la destination, on recommande toujours, dans la mesure du possible, de boire de l'eau en bouteille ou une eau qui a été décontaminée si les personnes doivent consommer l'eau du robinet ou laver leurs fruits et légumes, par exemple. Idéalement, il faut que l'eau ait quand même été décontaminée. Il y a des petites pastilles qu'on trouve dans les pharmacies en vente libre et qui permettent de purifier l'eau. Éventuellement, sinon, on a aussi la possibilité de la faire bouillir. Mais c'est vrai que ce n'est pas recommandé de consommer directement de l'eau qui n'a pas été traitée au préalable, que ce soit au Bénin, que ce soit au Mali, que ce soit au Congo. Vraiment, on recommande, dans la mesure de possible, pour les personnes qui quittent l'Europe pour retourner au pays, de faire attention à ces consignes-là.
C'est le cas du paludisme notamment, puisque on est nombreux, nous, Africains, résidents en France. On a l'impression, en fait, qu'on est immunisés contre le palud, justement. On va retrouver Prudence Maïdou et Phil Darwin à ce sujet, et on se retrouve juste après.
Toi qui repars au pays, j'espère que tu as pris tes précautions contre le paludisme.
Mais tu m'as pris pour un touriste ou quoi? Je suis l'enfant du pays.
Et alors?
Et alors, ça veut dire que je n'ai pas besoin de prendre des précautions contre le palu, car le palu lui-même, il sait qu'il ne pourra pas m'atteindre.
Ah, c'est ce que tu dis. Est-ce que tu sais que chaque jour, le palu terrasse des gaillards nés et vivants au pays? Un gringalet comme toi, là. Tu vis ici en Europe, tu vas aller le défier?
Ce n'est pas un défi, puisqu'il n'y aura même pas de combat.
Ah bah effectivement, il n'y aura pas de combat, mon pote. Parce que tu seras déjà KO technique avant même de monter sur le ring.
Ce n'est pas parce qu'on vient d'Afrique qu'on est protégé contre le paludisme. Avant tout retour au pays, il est indispensable d'aller voir un médecin pour bénéficier du traitement qui vous protégera, vous et vos proches.
Alors justement, nous sommes encore trop nombreux à nous sentir intouchables. On pense qu'on n'a pas besoin de prendre des mesures spécifiques pour partir. Et c'est faux puisque on a perdu notre immunité. Vous nous expliquez un petit peu, docteur ?
Alors effectivement, c'est vrai que quand on est sur place en permanence, en contact avec le parasite du paludisme, le corps va un petit peu s'habituer, on va dire, au parasite.
Ouais.
Mais il n'empêche pas que malgré cette adaptation de l'organisme, on peut quand même faire des crises de paludisme en étant sur place. À plus forte raison, quelqu'un qui a quitté la zone à risque pour le palu, depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui retourne, en plus en général, on part pendant la saison des pluies,
ouais.
Parce qu'on part l'été, à cause des vacances scolaires, il faut s'adapter si on part avec les enfants.
Ouais.
Et donc là, en plein pendant la saison des pluies, c'est là où il y a le pic de transmission de la maladie du palu. Et donc, bien entendu que dans cet intervalle-là, on a perdu cette adaptation du corps au parasite,
ouais.
Et là, on repart, on est exactement comme un touriste, comme il le dit dans le sketch. Et il n'y a pas de protection parce qu'on est né au pays, qu'on y a vécu 20 ans. À partir du moment où on a quitté le pays, c'est fini, il faut prendre le traitement antipaludique. Et d'ailleurs, même les gens qui sont sur place, quand c'est la saison des pluies, en général, ils font des cures pendant plusieurs mois. Une ou deux fois dans le mois où ils prennent un traitement antipaludique pour éviter d'attraper la maladie, surtout quand c'est la saison des pluies.
Alors vous vouliez dire un mot sur une étude de l'OMS qui est en cours sur la vaccination dans trois pays, le Kenya, le Ghana et le Malawi.
Tout à fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un voyageur et qu'on part et qu'on retourne au pays dans une zone à risque pour le palu, ce qu'on va proposer, ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement, c'est-à-dire des comprimés qu'il faudra prendre par la bouche pendant la durée du séjour et continuer un petit peu après le retour. Là, depuis des années et des années, on essaie de mettre en point un vaccin pour lutter contre le paludisme, hein, parce que c'est une mortalité tellement importante, surtout au niveau infantile.
Ouais.
Et là, il y a une étude qui est en cours sur un vaccin qui est en train d'être testé chez les enfants, au Ghana, au Kenya et au Malawi. Et on espère que ça va pouvoir aider à sauver à peu près 50% des... Enfin, diminuer la mortalité chez 50% à peu près des enfants de moins de 5 ans. Donc, ce qui n'est pas très bon pour un vaccin, mais qui est énorme en termes de vie sauvée.
Alors, pensez également aux autres maladies qui sont transmises par des piqûres d'insectes. On en parle pas mal dans l'actualité dernièrement, des cas de dengue, de Zika et de chikungunya. Tout dépend de l'endroit où on se rend, en fait.
Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup, on est très focalisé sur le paludisme comme maladie transmissible. Et c'est vrai que c'est une des rares pour laquelle on a la possibilité de proposer des traitements. Comme je le disais tout à l'heure, on peut donner des médicaments à prendre par la bouche pendant la durée du séjour qui vont permettre de protéger à peu près à 70%. Mais en plus de ça, il faut rajouter ce qu'on appelle les mesures physiques de protection antivectorielle contre les insectes.
Ouais.
C'est-à-dire, il faut partir avec des répulsifs pour l'imprégnation de la peau, l'imprégnation des vêtements, plus la moustiquaire.
Imprégné,
bien entendu. Et donc, du coup, ces mesures-là, ces mesures physiques, vont aussi permettre de lutter contre les autres maladies pour lesquelles on n'a pas de traitement.
Ouais.
La dengue, le Zika, le chikungunya. Et ça, on en retrouve partout sur le continent africain. On retrouve aussi sur le continent sud-américain, par exemple, de la dengue et du Zika. Donc ça, quelle que soit la destination, pareil, le challenge, c'est ne pas se faire piquer par des moustiques, que ce soit en journée ou en soirée. Donc on met des répulsifs sur la peau et on imprègne ses vêtements.
Alors, ce sont les bonnes protections et les bons réflexes face au palu. Et lorsque l'on voyage avec des enfants, il faut être encore plus vigilant, docteur.
Tout à fait, parce qu'on sait que finalement, la principale maladie quand on arrive dans les on va dire dans les 3-4 premiers jours, ça va être la diarrhée.
Ouais.
Donc les enfants, on est le plus vigilant possible, on fait attention à ce qu'ils boivent vraiment de l'eau en bouteille, à ce qu'ils se lavent toujours les mains quand ils sortent des toilettes, avant de manger. Alors on fait le focus chez les enfants, mais ce qui est valable chez l'enfant est valable bien entendu chez les adultes. Hein. Et puis aussi, dans le cas de la préparation du voyage, moi ce que je conseille toujours, c'est dans les 2-3 jours qui précèdent le vol en avion, de prendre le temps d'aller voir le médecin traitant ou le pédiatre pour qu'il ait le temps de regarder les oreilles. Parce que le nombre de fois où on a des enfants qui prennent l'avion, qui ont des otites, effectivement, c'est vraiment très douloureux. On ne comprend pas pourquoi l'enfant, il hurle pendant les 5 heures de vol. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il avait une otite et ouais. Il suffisait juste de lui donner un traitement adapté avant le départ. Et on aurait pu éviter ces hurlements pendant 5 heures de vol.
Alors justement, pour compléter, lorsque l'on part avec des jeunes enfants, faire attention également aux méfaits du soleil. C'est très important de le rappeler. C'est pas parce qu'on a une peau noire qu'on est protégé des méfaits du soleil.
Effectivement, hein, pour tout le monde, c'est la même chose. Donc, il faut partir avec de l'écran solaire. Il faut bien entendu que les enfants aient un chapeau sur la tête, qu'ils soient correctement habillés. Il faut pas les exposer aux heures très chaudes à la chaleur. Il faut penser à les hydrater très régulièrement. Il faut les stimuler pour qu'ils boivent. Tout ça, c'est vraiment très, très important pour éviter les insolations. Et puis l'autre chose aussi à laquelle il faut faire attention, et on n'y pense pas forcément,
ouais.
C'est les animaux. On oublie que ben, en Afrique, les animaux, ils ne sont pas vaccinés contre la rage.
Ouais.
Les enfants, surtout quand ils commencent à avoir 2-3 ans, ils sont très curieux. Ils ont tendance à aller vers les animaux. En France, ils sont habitués à côtoyer des animaux un peu partout. Et c'est vrai que leur réflexe, quand ils vont voir un chien passer, c'est d'aller le caresser. Or, les animaux n'étant pas vaccinés contre la rage, s'il suffit qu'ils lèchent un enfant sur le visage ou sur une plaie, ou qu'ils le mordent, pour pouvoir transmettre cette maladie qui est mortelle à 100% quand le virus rentre dans le système nerveux.
Alors, un mot sur les recommandations aux femmes enceintes à qui on déconseille en fait de voyager dans certaines zones particulièrement touchées par le paludisme.
Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand une femme est enceinte, elle va être plus sensible à certaines maladies.
Ouais.
Et c'est vrai qu'une femme enceinte qui va attraper un paludisme risque de faire plus fréquemment des paludismes compliqués. Il y a des complications pour la mère, mais aussi pour le bébé, risque de fausse couche notamment. Et donc ça, c'est vraiment très ennuyeux. Donc dans la mesure du possible, si on peut reporter un voyage et éviter de le faire pendant la grossesse, nous, on recommande de décaler le voyage.
Alors pour revenir sur le paludisme, une question aussi pour les auditeurs qui nous écoutent du côté d'Abidjan. Ils sont nombreux aussi, les Africains, à voyager sur le continent africain, dans des pays voisins. Alors, quelles sont les recommandations lorsque, par exemple, on vit en Côte d'Ivoire et qu'on va passer ses vacances au Cameroun ou au Mali, par exemple?
Donc, les recommandations, elles vont être à peu près les mêmes parce que sur le continent, on va être exposé aux mêmes maladies. C'est-à-dire, sur le risque alimentaire, ça va être l'hépatite A, la fièvre typhoïde et avec une recrudescence pendant la saison des pluies, pendant la saison humide. Le risque de paludisme, pareil, surtout pendant la saison des pluies quand on est sur l'Afrique de l'Ouest. Par contre, quand on est en Afrique centrale, finalement, du paludisme, il y en a pratiquement toute l'année.
Ouais.
D'accord ? Il n'y a pas de saisonnalité avec une vraie saison sèche comme on peut en avoir en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali.
Ouais.
D'accord. Donc ça, c'est la raison pour laquelle souvent, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, finalement, on va plutôt proposer des cures de traitement antipaludique pendant la période, en fait, de la saison des pluies.
Ouais.
Alors que sur les pays d'Afrique centrale,
c'est
on,
tout
va,
au long de
on
l'année.
Va plutôt le, oui, surtout en tout cas pour les enfants, il y a des études comme ça où finalement les enfants on leur donne régulièrement jusqu'à un certain âge et puis ça permet de réduire un petit peu la mortalité liée au paludisme.
Et pour ceux qui viennent en France, quelles sont les recommandations qui quittent le continent pour venir ici, passer les vacances?
Alors, normalement, quand on quitte le pays pour venir sur l'Europe de l'Ouest et notamment la France, on ne va pas avoir un risque supplémentaire d'attraper certaines maladies. D'accord? Donc, ce qui va être demandé, pour certains en tout cas, c'est d'être à jour de leur vaccination fièvre jaune. Parce que, par exemple, quelqu'un qui quitte la Côte d'Ivoire ou le Cameroun et qui décide d'aller au Brésil ou qui décide d'aller en Asie, on va lui exiger d'être sûr qu'il ait sa vaccination à jour pour ne pas importer en fait la fièvre jaune dans le pays, en Asie D'accord. Donc ça, c'est les petites choses, les petites astuces auxquelles il faut faire attention. Ensuite, en termes de recommandations vaccinales, bien entendu, il faut être à jour de sa diphtérie, son tétanos, sa polio. Si on n'est pas immunisé contre l'hépatite A, c'est bien de faire la vaccination, c'est recommandé. Mais en général, les gens qui sont nés sur le continent, en général, dans l'enfance, ils ont déjà attrapé la maladie, donc ils n'ont pas besoin de se faire vacciner.
Ouais.
Contrairement aux enfants qui sont nés en France et qui partent au pays pour lesquels il y a une indication à faire le vaccin.
Alors, à présent, est-ce qu'on peut revenir sur tout ce qu'il faut préparer et vérifier avant de partir en famille ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser en matière de santé. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif pour les auditeurs qui nous écoutent ?
Oui, bien sûr. Donc, la première chose, c'est on vérifie le carnet de santé ou le carnet de vaccination. Il faut que les vaccins pour le recommander au niveau national soit à jour, donc oui. Je parlais diphtérie, tétanos, polio, la rougeole aussi, parce qu'en ce moment, il y a une épidémie mondiale de rougeole, et donc c'est vraiment très important d'être correctement immunisé contre la rougeole. Ensuite, on va regarder aussi pour l'hépatite B,
oui.
D'accord, mais qui fait maintenant partie des vaccins obligatoires chez les nourrissons, donc normalement, les enfants devraient avoir cette mise à jour-là. Et puis après, on va vraiment se concentrer sur les vaccins spéciaux, spécifiques au voyage. Donc ça va être l'hépatite A qui se transmet par l'eau, par la nourriture. Ça va être éventuellement la fièvre typhoïde si vraiment c'est un séjour un petit peu prolongé qui va durer plus de un mois, par exemple. Ou si c'est un séjour qui va être dans de très mauvaises conditions, c'est-à-dire quelqu'un qui va être peut-être sur un circuit un peu itinérant dans le pays,
oui.
Qui ne va pas vraiment bien maîtriser la cuisine, ce qu'il va pouvoir consommer. Donc là, la fièvre typhoïde, ça devient intéressant. Pour les enfants, donc vraiment, moi, j'interpelle les parents par rapport au risque de rage. Ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite,
il y a beaucoup de cas, en fait, d'enfants qui attrapent la rage.
Alors, en Afrique, par rapport à l'Asie, il y en a un petit peu moins. Mais la difficulté de cette maladie, c'est sa gravité.
Ouais.
Je vous ai dit tout à l'heure, quand le virus rentre dans le système nerveux, c'est 100% de mortalité, on ne peut plus soigner. D'accord. Et l'enfant n'est pas forcément mordu, donc on ne s'en rend pas forcément compte, il suffit juste qu'il soit léché. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être très vigilant par rapport à ça. Et donc quand on a le moindre doute, la première chose, on nettoie la salive avec de l'eau et du savon, puis de la biceptine, et ensuite on se rend tout de suite dans les 2 heures au centre antirabique pour que l'enfant soit correctement pris en charge. Donc ça, c'était pour la partie vaccination.
Ouais.
Ensuite, il va y avoir toutes les autres recommandations de bon sens, hein, les règles hygiéno-diététiques.
Ouais.
Donc on se lave les mains, on part avec du gel hydroalcoolique. Hein. On a toujours un petit flacon dans son sac à main. On se lave les mains avec de l'eau et du savon avant les repas, en sortant des toilettes, etc. Si on a un doute sur une nourriture qui n'a pas été correctement conservée.
La nourriture de rue, par exemple.
De rue, etc. On ne consomme pas. Tout ce qui va être les brochettes, les alocos, enfin voilà... Vous connaissez, les auditeurs se connaissent tout ça beaucoup mieux que moi. Vraiment, dans la rue, on évite d'acheter de la nourriture. On fait attention.
Quand on est vraiment tenté.
Alors, si vraiment, vraiment on est tenté, à ce moment-là, il faut consommer ce qui a été cuit devant vos yeux. La brochette qui sort des braises devant vos yeux, pas celle qui était dans la tasse, ou les beignets qui sortent de l'huile devant vos yeux.
D'accord.
Parce qu'ils traînaient dans la tasse depuis 2 ou 3 heures, comme je dis, parce que sinon, les mouches, elles ont eu le temps de bien danser dessus avant que vous arriviez. Donc, ça, vous ne consommez pas. Bien entendu, on a dit qu'on buvait de l'eau en bouteille,
ouais.
Ça c'est important.
Ouais.
Et puis ensuite, dans les autres recommandations, ça y est, j'ai perdu le fil. Donc dans les autres recommandations par rapport au risque de alimentaire, ça va être vraiment ça les points importants.
D'accord. Alors, à présent, rappelons l'importance également d'avoir des préservatifs certifiés pour les personnes susceptibles d'avoir des relations sexuelles, mais aussi prévoir une trousse de pharmacie. Donc, c'est important de dire, n'oubliez pas également si vous allez avoir des relations sexuelles, de partir avec vos préservatifs.
Mmh. Bien entendu. Ça, c'est très important. Alors, souvent, les gens me disent, oui, moi, je pars rejoindre ma femme, ou on part en... Oh, mais docteur, mais on part en couple, etc. Alors, la première chose à laquelle il faut penser, c'est que des fois, on peut tout simplement oublier sa pilule. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, même quand les gens partent en couple, moi, je recommande de partir toujours avec une boîte de préservatifs, parce que s'il n'y a pas forcément de désir de grossesse et qu'il y a eu un oubli dans la pilule ou autre, ben c'est toujours plus rassurant d'avoir la boîte de préservatifs. Ensuite, bien entendu, il va y avoir tous les risques liés aux infections sexuellement transmissibles.
Ouais.
Et l'avantage de partir avec des, des préservatifs qu'on aurait achetés ici, c'est que ben, y a quand même des normes, ça répond quand même à certaines normes de sécurité et de fiabilité du préservatif. Donc, bien entendu, systématiquement, c'est recommandé dans la trousse à pharmacie de partir avec des boîtes de préservatifs.
Une pensée également aux personnes qui vivent avec une maladie chronique. N'hésitez surtout pas à ne pas oublier de partir avec vos prescriptions médicales, avec vos traitements également, et pensez qu'il peut vous arriver de rester un peu plus longtemps sur place. Donc, il faut prévoir également lorsque l'on est déjà malade. Docteur.
Alors c'est vrai que quand on a une maladie chronique, c'est vraiment très important de bien préparer son voyage, donc d'être sûr que la maladie est bien stabilisée, hein, ça c'est important, que l'on ait du diabète, que l'on ait une drépanocytose, que l'on ait une maladie cardiaque, hein, ça c'est essentiel. L'autre chose qui est importante et à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que le traitement de fond, il voyage avec le malade, il ne voyage pas dans la valise qui va partir en soute.
Ouais.
Donc en tant que...
Pour être sûr de ne pas les perdre.
Exactement, parce que ça peut arriver des fois sur les escales que ben, la valise, elle n'arrive pas ou qu'elle arrive 3 jours plus tard. Or, votre maladie vous oblige à devoir prendre le traitement de façon quotidienne. On ne peut pas se permettre pendant 3 jours d'arrêter son traitement de la tension ou d'arrêter son traitement du diabète. Donc ça, c'est indispensable. On prend l'ordonnance, la prescription du médecin référent et les traitements sur soi. Et l'idéal, c'est d'avoir minimum l'équivalent de 1 mois de traitement sur soi au cas où...
Même si on part une semaine ?
Alors, si vous partez une semaine, oui, moi, je recommande toujours de partir avec 1 mois de traitement, quoi qu'il en soit. C'est toujours mieux.
Alors, un mot sur la question de la prise en charge des frais de santé en cas de besoin sur place. C'est une question à laquelle aussi il faut penser, docteur.
Tout à fait. Donc... il faut savoir que, moi, souvent, ce que je recommande, hein, quand les gens, par exemple, ont une nationalité française et qu'ils retournent au pays. Alors, il y a des petites choses qui sont importantes. C'est que sur le plan administratif, c'est toujours bien d'être inscrit sur le site du ministère des Affaires étrangères. Il y a une rubrique qui s'appelle le fil d'Ariane. Ça permet d'être enregistré en tant que ressortissant français. On est de passage pour 3 semaines, pour 1 mois, pour 1 mois et demi.
Ouais.
Et on est identifié au niveau de l'ambassade de France. Ensuite, s'il y a un problème de santé, moi, ce que je recommande toujours, c'est ben, au lieu d'aller dans un dispensaire où vous ne connaissez pas très bien les pratiques, vous prenez contact avec le service médical de l'ambassade de France.
Oui.
Et eux, ils vont vous orienter sur les centres avec lesquels ils ont le plus l'habitude de travailler.
D'accord.
D'accord. Ça, c'est vraiment important. Après, il peut arriver des fois ben, que les personnes aient des accidents ou des... ou qu'ils aient besoin d'être rapatriés en urgence. Ça, ensuite, c'est dans le cadre de votre assistance rapatriement.
Assurance.
C'est l'assurance, en fait, qui va prendre ça en charge.
Alors, des infos utiles. Le centre de vaccination international Berthaud, c'est au 13 rue Charles Berthaud, dans le 13e à Paris. Il répond 01 45 82 50 00. Consultation voyageurs drépanocytaires au 01 45 82 50 14. L'Institut Pasteur répond au 08 90 71 08 11. Le centre de vaccination international de l'APHP Avicenne, Bichat, Saint-Antoine, Thonon. Les informations sur le site internet de l'APHP. Donc voilà, toutes les... Et n'oubliez pas de partir, surtout si vous partez avec vos enfants, avec le carnet de santé et le carnet de vaccination. Il reste une petite minute. Comment on pourrait conclure, docteur Hassan Niakate ?
Donc moi, ma conclusion, c'est vraiment penser à anticiper le voyage parce que tout ça, c'est des frais. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Hein. Les vaccins, le traitement antipaludique. Donc vraiment, si vous anticipez sur 3 mois... Ça va vous permettre en fait d'avoir à débourser moins d'argent d'un coup, parce que tout ça, ça va pas être correctement pris en charge, sauf si vous avez une très bonne mutuelle. Donc vraiment, un voyage, ça se prépare dans la mesure du possible. C'est pas 10 jours avant qu'on va voir le médecin pour lui annoncer qu'on part à Ouaga ou qu'on part à Bamako.
Merci en tout cas d'être venu. Je rappelle, docteur Hassan Niakate, que vous êtes médecin responsable du centre de vaccination international Berthaud à Paris, c'est dans le 13e. Merci beaucoup d'avoir répondu ce matin à notre invitation. Bienvenue sur Africa Radio. Je vous accompagne à présent. Ambiance Africa, ça démarre juste après la pause publicitaire. On a un programme chargé tout au long de ces 3 heures. Je vous souhaite la bienvenue. C'est le moment de marquer la pause et on se retrouve juste après. Notre premier rendez-vous, c'est avec les pensées de Fatou Birama à 10h20. Heure de Paris, 8h20, heure internationale, enfin en temps universel. Allez, on marque la petite pause, on se retrouve derrière, bougez pas. Oh là là.